Bonjour à toutes et à tous. Déjà le quatrième jour de notre grande table en direct du Festival d'Avignon. À 13h30, la comédienne Myriane Boyer sera notre convive pour parler de Louise au parapluie, écrit et mis en scène par Emmanuel Robert Espalieu. Mais avant cela, plongeons dans l'histoire antique et tragique d'Édipe. Le mythe tel que rapporté par Euripide a pour particularité un chœur composé de femmes phéniciennes de passage dans la cité de Thèbes. Sous la plume du dramaturge anglais Martin Crimp, ce chœur de filles s'est imposé comme la cheville ouvrière de la pièce. Des voix ironiques et insolentes, rattachons le mythe au présent de notre époque. Une tragédie universelle, lourde d'histoire et de représentation, secouée par une jeunesse bien présente. Le reste, vous le connaissez par le cinéma et mis en scène par Daniel Jeannetot, ici présent aux côtés de la comédienne Dominique Raymond. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Daniel Jeannetot, il y a eu effectivement ce passage de main en main d'auteur en dramaturge et de dramaturge en traducteur, puisque la pièce de Martin Crimp a été traduite par l'écrivain Philippe Dian.
Oui. Oui, en fait, c'est toute une histoire, toute une succession d'écritures, de réécritures et de traductions qui a commencé d'ailleurs avant même Euripide, puisque Euripide a écrit sa pièce d'après Échille, d'après Les Sept contre Thèbes. Et donc c'est vraiment une tradition très, très importante dans la littérature occidentale depuis très longtemps, qui est de s'inspirer d'œuvres anciennes pour en faire de nouvelles. Il ne s'agit pas seulement de réécriture, mais vraiment de réinvention.
Alors le mythe avait déjà été réinventé au moment de l'Antiquité. À chaque auteur, une nouvelle lecture de la pièce. Peut-être qu'on peut commencer par en raconter les grands personnages, les grandes figures qu'incarne notamment Jocaste. Dominique Raymond, vous êtes la Jocaste.
Je suis la Jocaste de la pièce, qui est un rôle quand même relativement intimidant quand on est une comédienne, de tout à coup devoir se frotter à ces grands mythes. Mais avec Daniel, j'étais prête pour l'aventure, alors que je n'avais pas une immense connaissance de la mythologie grecque, j'avoue, bien que j'ai joué deux fois Phèdre, mais il y a longtemps. Et quand Daniel me l'a proposé, j'avais des petites hésitations, mais il m'a dit c'est pas grave parce que le personnage qui ne veut pas être Jocaste au début, donc elle a les mêmes réticences que toi, donc c'est parfait. Donc j'étais partie pour l'aventure de ce rôle finalement avec lequel je me familiarise un petit peu plus tous les jours. Et c'est une expérience quand même assez forte. Voilà.
Alors cette Jocaste, il faut la resituer, Daniel Jeannetot, parmi les grandes figures de la pièce. C'est la mère d'Édipe.
C'est la mère d'Édipe. En fait, la pièce s'appuie sur le cycle d'Édipe, l'un des cycles les plus importants de toute la mythologie grecque et de la mythologie mondiale. Et c'est un mythe qui a connu toutes sortes d'avatars. En fait, la version que fixe Euripide dans sa pièce, par exemple, n'est pas celle de Sophocle, ni celle d'Échille. Par exemple, chez Échille, ou chez Sophocle, aussi bien, Jocaste meurt dès qu'elle apprend la vérité sur son mariage avec Édipe. Elle se suicide tout de suite. Et Euripide la maintient en vie. Il a besoin de la garder en vie pour la faire parler, parce que c'est vraiment l'auteur tragique qui donne la parole aux femmes, c'est tout à fait nouveau dans la tragédie grecque, et la figure de Jocaste, au contraire d'ailleurs d'une Médée, par exemple, d'une Clytemnestre, n'est pas une femme de pouvoir. C'est une femme qui ne cherche pas à égaler les hommes dans leur place dans le monde, à prendre le dessus. Elle porte un regard critique et lucide, distant, un regard d'intelligence et de calme. Elle essaye de maintenir le monde en vie. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette figure tout à fait singulière de Jocaste, qui est très différente des autres héroïnes tragiques. Elle subit, elle est souvent réduite même à une forme d'esclavage, bien que souveraine, elle est soumise aux ordres et aux lois. Son frère la promet en mariage, à qui débarrasserait la ville de Thèbes, du Sphinx, etc. Et malgré tous ces asservissements, elle parvient à maintenir une forme de dignité coûte que coûte. C'est-à-dire cette espèce de victoire de l'intelligence et de la dignité.
Son truc, c'est la pacification, c'est pas la vengeance. Oui, c'est ça. Elle est vraiment pour arranger les choses, pacifier, trouver la paix. Le petit extrait que je vais lire parlera de ça.
Elle va avoir un mal fou à le faire quand même, puisque la guerre fratricide aura quand même lieu.
Oui, mais elle essaye et c'est ce qui me plaît. C'est cette façon d'arranger les choses sans cet esprit sauvage et de vengeance que parfois on peut voir dans les personnages féminins de la mythologie. J'aime cette douceur.
Cette douceur, elle vient du jeu, elle vient de la manière de la jouer aussi.
Oui, mais elle vient aussi de l'écriture. En fait, c'est toujours l'écriture qui nous amène à quelque chose, à une façon d'être, de jouer. On n'a pas besoin de se poser des milliers de questions. Il suffit de lire le texte plusieurs fois, il nous amène quelque part toujours. Et c'est toujours, enfin, si on est un peu perméable, il nous amène toujours au bon endroit. Et là, Jocaste, à la première lecture, je ne voyais pas de cris, je ne voyais pas de choses absolument spectaculaires au niveau... du jeu, je voyais juste une immense douceur et un désir fou que les choses s'arrangent. Et au fond, c'est comme ça que je suis un peu dans la vie aussi. J'aime beaucoup quand les choses s'arrangent, les conflits me font horreur.
Ben c'est comme ça que se joue la pièce, en tout cas cette version-là de Martin Krimp. Daniel Janto, l'idée de convoquer les figures du mythe, celle d'Édipe, celle de sa mère, les frères fratricides, mais il y a aussi l'idée de mettre le cœur au centre. Et alors vous avez choisi un cœur de jeunes filles, de jeunes villiers, qui ne sont pas nécessairement des comédiennes d'ailleurs.
Non, principalement pas, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, l'expérience vient de là aussi, d'avoir mis ce cœur au centre, ce qui était déjà l'idée de Martin Krimp, et la vôtre a été de les mettre carrément au milieu. Au milieu d'une salle de classe.
Oui, en fait, c'est aussi des choses, comme le dit Dominique, qui sont induites par l'écriture, par la pièce, par les visions successives de Ripide et de Krimp. C'est-à-dire que ce que fait Krimp, qui est vraiment décisif par rapport à la pièce antique, c'est qu'il place le cœur au centre, effectivement, et il en fait le moteur de la représentation. Elles ne sont pas seulement en regard et en commentaire de ce qui se passe, de l'action centrale, mais ce sont elles qui convoquent les figures, qui les provoquent, qui les contraignent. Elles sont aussi assez coercitives, d'une certaine façon.
Et intrusives, et comme des voix intérieures.
Ironiques, et en même temps pleines d'empathie. C'est ça qui est très beau, je trouve, chez Krimp aussi, c'est ce ressort dynamique de l'ironie, toujours accompagné d'empathie. C'est pas cynique, si vous voulez. C'est pas une chose qui vise à ridiculiser ou à tromper. Elles font dégorger de la réalité du monde et du monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont des jeunes filles vraiment d'aujourd'hui. Quelque chose de sa vérité profonde.
Alors, Dominique Gento, arrêtons-nous deux minutes sur ce cœur. Ce cœur, il est aussi une figure du barbare, de l'étranger, puisque ce sont les Phéniciennes qui sont de passage. Dans la version
exactement, de ça c'est l'invention géniale de Ripide, c'est que dans cette société grecque de l'époque, en pleine guerre du Péloponnèse, dominée par des hommes brutaux, voulant à tout prix le pouvoir et dominer le monde entier, il convoque des jeunes filles qui ne sont rien dans ce monde-là, des étrangères, des phéniciennes, c'est des libanaises, des barbares, des orientales, pour les grecs de l'époque, et ces jeunes filles qui portent sur ces actions idiotes et brutales un regard lucide et compatissant d'une certaine façon, mais vraiment lucide. Krimp prolonge ce geste de Ripide qui donne la voix aux femmes qui n'avaient pas citoyenneté à l'époque, à des jeunes filles qui s'apparentent vraiment aux jeunes filles de la banlieue, des jeunes filles qui ont un langage qui emprunte ironiquement le langage du lycée, de la formulation scolaire, des énoncés, les exposés, les problèmes de mathématiques ou de physique, pour questionner le monde, questionner les spectateurs. Elles s'adressent directement au public, posent des questions un peu absurdes qui sont toujours nourries d'une arrière-pensée critique, d'une arrière-pensée poétique et politique. C'est ça qui est très agréable avec ce cœur plein de vitalité. Et ce qui m'a paru évident quand j'ai lu la pièce, qui n'était pas d'ailleurs forcément la toute première idée de Martine, c'était de convoquer pour ces scènes-là des filles que je côtoie tous les jours à Gennevilliers, dont j'ai pu apprécier souvent d'ailleurs dans des interventions dans des lycées ou des collèges, la férocité amusante, la rigueur dans la pensée, l'insolence,
le piquant,
l'apparente indifférence et leur grande lucidité. On ne leur raconte pas d'histoire, si vous voulez.
Alors on va écouter Claire Nancy, professeure de littérature, qui va nous parler de cette figure des Phéniciennes, d'abord chez Euripide. C'était en 88 sur France Culture.
Toute cette pièce fait intervenir comme cœur. Donc le cœur joue un rôle, comme on le sait, décisif dans la tragédie. C'est la voix qui alterne avec les voix singulières. Cette pièce fait intervenir comme cœur des Phéniciennes. C'est un cœur tout à fait surprenant, paradoxal, de filles barbares. Et on sait que la pièce avait eu beaucoup de succès à cause du caractère résolument oriental dans les costumes, dans la musique de ces filles barbares. Ces filles barbares ne cessent pas de dire, de répéter constamment leur origine asiatique, de dire qu'elles viennent de Tyr en Phénicie, et de dire toute la distance qui les sépare de l'histoire qui se joue devant elles. Mais en même temps, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elles révèlent que si elles sont de passage ici à Thèbes, elles se rendent à Delphes, hein, comme offrande à Apollon, si elles sont de passage à Thèbes, c'est parce que ces Grecs qui sont là devant elles et qui habitent Thèbes sont en fait des cousins. Et elle révèle de cette manière que ces Grecs, si Grecs, puisque l'histoire d'Œdipe, c'est peut-être l'une des plus grecques de toutes les histoires tragiques, les plus autochtones, des plus traditionnellement et typiquement grecs, en fait, que ces Grecs sont cousins, et cousins très proches, des barbares. Elles viennent de Tyr en Phénicie, et elles rappellent que le fondateur de Thèbes, c'est-à-dire le roi Cadmos, venait lui aussi de Tyr comme elle. Donc au fond, elles ne font que refaire son propre voyage. Et elles viennent ici donc comme étrangères, mais ces étrangères sont l'origine même des Grecs qui sont ici et qui donnent l'exemple du comportement que nous venons de voir.
Daniel Jeannetot, on voit qu'à travers cette figure du cœur des Phéniciennes et des jeunes filles incarnées justement dans votre mise en scène, c'est finalement la figure de l'autre, de celui qui est extérieur, peut-être parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a d'autres origines, qui va finalement porter un nouveau regard sur le monde et en l'occurrence convoquer les fantômes du passé qui sont un peu tus, un peu cachés avec cette histoire édipienne honteuse.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, Crimpe et Euripide convoquent les figures minoritaires. Elles n'ont pas de nom, elles sont anonymes, ce sont des jeunes filles qui, dans ce monde-là, ne sont rien, ne valent rien au regard des hiérarchies, de pouvoir, de propriété, d'importance. Et c'est depuis ce point de vue minoritaire qu'on développe une pensée intelligente, un regard aimant, clair, constructif sur le monde. C'est très subversif, c'est une pièce qui est profondément, dans son origine même, contient cette forme de subversion, qui refuse de s'affilier à tous les régimes de la domination et du pouvoir unanimiste, si vous voulez.
Dominique Raymond, elles viennent, ces jeunes filles, vous interpeller, vous alpaguer, elles viennent finalement révéler la tragédie que vous portez en tant que figure mythique qui apparaît sur scène. Vous avez tout ça sur les épaules, finalement.
Oui, et en même temps, finalement, le poids n'est pas si grand puisque c'est elles qui vont le porter. Elles le portent pour moi, au fond. Elles vont me chercher dans le fin fond du néant, de l'obscurité. Je suis là depuis 2000 ans. J'attendais mon tour. J'avais plus tellement envie de venir. Et puis, elles me tirent de là. Donc, j'arrive. Jocaste arrive, pardon. Et j'ai toutes ces filles devant moi. Et comment dire? C'est pas des amateurs, c'est pas des comédiennes, c'est 10 fois mieux. C'est des filles qui n'ont jamais, jamais eu de contact avec ni la scène, ni d'autres acteurs. Elles ne connaissent pas le théâtre. Et l'effet que ça fait pour des acteurs, disons, qui ont quelques années derrière soi, c'est quelque chose qui est absolument bouleversant, parce que le regard qu'elles portent sur nous est un regard, mais d'une fraîcheur, d'une vérité, d'une absence de jeu, incroyable d'être totalement là, quoi. Et pour nous, c'est, enfin, on le ressent tous, là, les 3-4 mythes, on est bouleversé par ça. On est bouleversé et on se laisse faire par elle, et de plus en plus on se laisse faire par elle, et en même temps parfois on les pousse, on les éjecte parce qu'on joue très bien notre rôle et on n'a plus besoin d'elle. Mais elles viennent toujours nous chercher, et dès que les scènes sont terminées, hop, elles balancent virtuellement un grand seau d'eau froide sur la scène. Et on passe à autre chose.
Et elles viennent vous chercher et elles vous demandent « Mais à quoi tu sers, toi ?» Il y a cette idée du sphinx qui est travaillée aussi dans ce cœur-là, ce cœur modernisé. Et elles vous demandent « À quoi vous servez, Jocaste, d'une certaine manière ?»
Voilà, donc elles posent des questions. Et comme dit Claire Nancy, c'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce que ça fait. C'est ça qui plaît beaucoup à Claire Nancy, par exemple, qui est notre dramaturge, écrivain, et qui nous a beaucoup éclairés sur pas mal de points. Elle dit, ce n'est pas pourquoi, ce n'est pas comment, c'est qu'est-ce que ça fait. Et ça change un peu la donne. On la voit d'un autre côté, la question.
On va écouter ce cœur.
La liste des étapes à suivre pour préparer le sacrifice d'un animal. Petit 1, orner l'animal avec des fleurs. Petit 2, plonger la torche dans l'eau. Petit 3, cachez le couteau sous l'orge dans un panier. Petit 4, prenez des poils de l'animal et brûlez-les. Petit 5, quand l'animal fait un signe de consentement, tranchez la gorge de l'animal en vous assurant que la tête de l'animal est tournée vers le ciel. Petit 6, fournissez de la musique. Oui, si elle est enregistrée, pensez à prendre des piles de rechange. Petit 7, faites crier des femmes en continu. Petit 8, recueillez le sang dans un récipient approprié, acier inoxydable recommandé. Petit 9, écorchez l'animal. Petit 10, brûlez les fémurs pour les dieux. Petit 11.
Daniel Janto, traduisez-nous ce qui est en train de se passer. C'est le sacrifice du mouton.
Oui, alors la pièce a une structure assez complexe et elle juxtapose des éléments qui sont purement ironiques, comme celui-ci, où on fait une sorte d'exposé sur ce que c'est qu'un sacrifice. Alors on décrit ça, c'est un peu foutraque. Et avec les filles du chœur, on a cherché ensemble, lors d'improvisation, comment représenter ça. Donc l'une d'entre elles se déguise en mouton, est déguisée par les autres en mouton, on sort des accessoires un peu grotesques. Mais après une succession d'actions, comme ça qu'on figure plus ou moins précisément, on se retrouve à la fin avec l'image d'une jeune fille toute frêle, toute jeune, couchée, la tête dans un baquet et inanimée. Et on part d'un simulacre rigolo de sacrifice de mouton et on finit par une image réelle potentiellement du sacrifice humain.
Alors ce que l'on entend aussi, c'est que la langue modernisée par Martine Krim, traduite par Philippe Dion, c'est une sorte de langue pseudo-scientifique qui utilise des systèmes assez comiques, de QCM par exemple.
Exactement. Oui, le langage du cœur est presque toujours, utilise toujours la métaphore scolaire, disons. Avec cette idée de demander des comptes. En fait, ce que j'ai ressenti quand j'ai lu la pièce la première fois, c'est que le cœur demande tout le temps des comptes au présent, au monde d'aujourd'hui. Nous demande à nous, les adultes, les plus âgés dans quel monde vous nous laissez. Vous voulez nous éduquer, nous apprendre des choses, nous instruire. Vous nous voulez beaucoup de bonnes choses, mais à quoi ça sert dans un monde pareil? C'est un peu ça qu'elles disent tout le temps, et c'est pour ça qu'elles emploient ironiquement, avec des questions tout à fait absurdes, mais toujours intelligentes, elle questionne cette espèce d'apparente rationalité qu'on prétend leur apporter, alors que le monde a de moins en moins de sens aujourd'hui si on considère l'état général de la planète, les guerres.
Il y a un côté un peu novlangue, hein, langage un peu technique, presque mode d'emploi de notices, d'appareils électroménagers. Il y a un côté comme ça, et il y a aussi un langage vert, des insultes ou des grossièretés, un côté tout à fait adolescent de l'époque, de notre époque.
Oui, c'est ça, c'est une espèce de surprésent. C'est d'ailleurs le présent qu'elles connaissent, qu'elles vivent, à la fois très technologique et en même temps, finalement, très libre dans l'usage du langage. La langue est en pleine réinvention en ce moment. On s'en plaint parfois, mais c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe au niveau du langage. Et la pièce de Krimp interroge et explore cet aspect-là du présent, en développant d'ailleurs tout au long de la pièce plusieurs niveaux d'écriture, plusieurs niveaux de langage, allant de la poésie vraiment la mieux écrite. Dominique a des pages dont on va bientôt en entendre une, qui est vraiment belle. C'est un langage, c'est un parler d'aujourd'hui, mais qui a une vraie dimension poétique, et d'autres moments où ça peut devenir tout à fait trivial. Rien n'est jugé selon une échelle de valeur. C'est une pièce qui rend compte du monde en l'aimant, mais aussi, comme toute chose qu'on aime, en le critiquant sévèrement.
Alors justement, c'est ce contraste qu'on va entendre. Peut-être, Dominique Raymond, nous donner le contexte du passage que vous allez nous lire.
Eh bien, Jocaste décide de créer une négociation entre ses deux fils pour qu'ils puissent enfin s'entendre sur le partage du pouvoir. Ils ont décidé que l'un l'aurait pendant un an, pendant que l'autre reste à l'écart, et ensuite vice-versa. Quand Polynice revient, Étéoque ne le laisse pas revenir, donc lui vole son année, et ça se passe assez mal entre ces deux frères, joués par Jonathan Genet et Quentin Bouissou. Il y en a beaucoup d'autres, j'espère qu'on les citera tous, mais bon, mes fils déjà, c'est eux. Et Jocaste essaye une dernière fois, pendant cette négociation qui est quand même très 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 mal partie, avec Polynice qui s'exprime pas tout à fait comme il devrait, avec son papier... C'est vraiment mal parti, Théocle n'y met absolument pas du sien, tout semble fichu. Elle essaie une dernière fois quand même de les réunir par un petit monologue qui, on espère, fera mouche, mais on ne va pas vous le dire.
Donc, on vous écoute.
Il y a certains avantages à la vieillesse, et Théocle. L'un d'entre eux est de voir les choses en perspective. Un autre est d'être capable d'ignorer, merci, les insultes gratuites. Tu parles de l'État, de contrôle, de stabilité, oui. Mais je n'entends que mon propre petit garçon ambitieux essayant de se justifier, de s'être emparé du fruit le plus mûr. Ce pourrait être presque, c'est quoi le mot ? Charmant ? D'observer de quelle manière ce jeune fils en colère, qui est le mien, fait la même tête que lorsqu'il était un bébé en colère. Si ce n'était pas pour la dégradation de la société humaine que le pouvoir absolu autorise. Sois juste, Théocle. Sois équitable. Écoute. Partage. N'est-ce pas la base de l'amitié entre les hommes et des alliances humaines durables ? Et là, les filles parlent, interviennent et disent « Oui, mais pourquoi devrait-on les écouter si nous sommes plus puissants ?» Laissez-moi parler. Ne devrait-on pas, chacun d'entre nous, équilibrer nos propres désirs par rapport aux désirs des autres ? Pourquoi a-t-on inventé la balance ? Était-ce simplement pour que les riches puissent calculer à quel point ils sont riches ? Ou était-ce pour s'assurer qu'au moment des moissons, chacun de nos citoyens reçoive une part égale de la récolte ? Le dieu nuit suit le dieu jour, et sans la nuit, et Théocle, comment pourrions-nous jamais dormir ? Comment pourrais-je, par exemple, jamais cesser d'entendre la voix de ton père, hurlant et hurlant dans ma tête, comme c'est le cas à la seconde même ? À la seconde même, vous l'entendez ? Et si le jour s'est préparé à laisser sa chaleur dans nos murs de pierre et à recevoir la nuit en virant le ciel à l'indigo, pourquoi ne pourrais-tu pas, Théocle, accueillir ton propre frère ? Serais-tu en train de suggérer que tu es plus important que le soleil ? Pensez-vous qu'il y croit vraiment, les filles ? Allez, nous sommes curieuses. Est-ce la cité que tu veux protéger ou est-ce ta propre autorité ? Oui, évidemment, tu vas me dire que c'est la même chose. Mais que se passera-t-il si vous vous affrontez maintenant et que Polynice gagne ? Tu sais ce qui arrivera ? Destruction de propriété, torture, pillage, meurtre, démembrement, énucléation, viol. C'est ça que tu entends par sécurité. Quant à toi, Polynice, oh, et ne fais pas comme si ça n'allait pas arriver. Ne vois-tu pas à quel point tu t'es montré naïf de t'enfermer en épousant une quelconque enfant dans une irrémédiable alliance ? Parce que soit tu l'emportes et détruis au nom de la justice tout ce que devant nous tu as prétendu aimer ici-bas, soit tu perds et présentes à tes nouveaux alliés une addition de bouchées qui pourrait potentiellement s'élever à des milliers de morts. Et ils prendront ça. Comment ? Vous deux, je vous en prie, faites la paix. Je vous ai parlé des hurlements dans ma tête. N'en rajoutez pas.
Merci, Dominique Raymond. La voix s'est d'un coup posée, la tragédienne justement est apparue. Daniel Jeanneteau, quelles étaient vos instructions, quelle était votre demande justement pour jouer cette tragédie-là, puisqu'il y a ce cœur qui saute un peu partout autour justement de la figure de Jocaste et autour des figures mythiques. Est-ce qu'il fallait que les porteurs du mythe aient quelque chose comme ça de très tenu, de très posé ?
Alors, en fait, ils sont très différents les uns des autres. C'est une des particularités de la pièce, c'est que chacune des figures apparaît avec un langage propre, si vous voulez. Ça n'est pas du tout homogénéisé par Crimp, qui fait parler Théocle d'une façon très différente de celle de Polynice et très différente aussi de celle de Jocaste, de même Antigone. Au fond, ce qui nous a d'abord préoccupé, c'est de donner à chacune de ces voix son ton, son énergie, sa vie propre, et donc de cultiver... à la fois en nous appuyant sur les personnalités des comédiens qui sont tous très différents, les uns des autres que j'ai convoqués au plateau, et les rôles, c'est des rencontres. Et à l'intérieur de ça, l'enjeu théâtral, vraiment le vrai travail dramaturgique, était non pas de créer l'unité dans l'expression, mais vraiment de faire jouer de grandes différences entre elles. C'est l'image certainement la plus importante de tout le spectacle, c'est comment on convoque des humanités, une humanité qui est vraiment l'illustration même de la différence, voire de l'opposition, mais de la faire exister et jouer ensemble pour déployer le mythe. Donc par exemple pour Dominique, je
la force
bien,
tranquille, il y a quelque chose comme ça. Hein.
J'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec Dominique sur des aventures extrêmement heureuses. On se connaît, c'est un chemin qui se prolonge de spectacle en spectacle, et on creuse quelque chose ensemble avec Dominique, qui est justement cette voie de la profondeur, cette voie qui va chercher très loin en elle, dans son centre, et qui s'exprime toujours, dans le cas de Dominique, par son corps. À la radio, on l'entend merveilleusement, elle a une voix qui est vraiment remarquablement belle, je trouve, mais en scène, elle bouge, elle dessine tout. Elle est l'une des rares comédiennes françaises à savoir si bien bouger. Beaucoup de personnes me demandent si je suis chorégraphe ou si elle est danseuse ou si on a fait un travail de préparation chorégraphique particulier, parce que c'est vrai que ce qu'elle opère dans l'espace, d'abord dans son imagination, Dominique dessine tout.
Dominique Crémon, expliquez-nous, vous dessinez tout, vous avez dessiné les déplacements, les placements de Jocaste sur scène. Il faut dire que ce décor, c'est une salle de classe un peu tombée en désuétude, hein, avec des bureaux renversés. On sent que le lieu a été déserté.
Oui, je dessine dans la vie déjà. Et
vous peignez aussi?
Je peins quand je peux, mais bon, c'est très important pour moi, c'est pas un hobby, c'est vraiment important. Et du coup, quand j'essaye d'adapter ça au théâtre, et souvent, enfin, un peu moins là, vous voyez mes petits hiéroglyphes dans la marge.
Alors, il y a des
mains
petites mains
qui font telle position, etc. Effectivement, je dessine sommairement comme des hiéroglyphes. En fait, c'est ce qui me fait retenir aussi le texte, c'est les mouvements. En fait, je retiens mon texte par mes mouvements intérieurs et extérieurs. Bon, c'est un peu simple et compliqué à la fois, mais je m'y retrouve avec mon chemin, ma partition musicale. Et pour le spectacle qu'on avait fait avec Daniel, qui s'appelait Feu d'August Strahm, alors là, ce n'était que des mouvements, que des didascalies, il y avait très peu de mots, et donc j'avais dessiné comme un storyboard sur 5 pages, tous les mouvements, la décomposition, etc. Et j'étais assez fière de cette petite chose qui m'a bien aidée, je dois dire, pour les répétitions, parce qu'il n'y avait que ça à retenir, essentiellement, la gestuelle.
Daniel Gento, ce cœur dont on parle beaucoup, qui est le centre aussi du récit, est tout à fait placé aussi. On a le sentiment que, de par le positionnement dans la salle, elles vont prendre le pouvoir, en tout cas encercler. Il y a presque une idée de gang de filles.
Oui, absolument. D'ailleurs, on a souvent employé cette expression gang de filles. Je leur demande d'être dangereuses, si vous voulez, pendant la représentation, mais aussi d'être très à l'écoute. Et en fait, on a travaillé longuement avant, bien avant les comédiens professionnels, on a travaillé au plus de 6 mois, très régulièrement, avec le groupe des filles, parce que je voulais qu'elles soient en avance sur les comédiens. Je voulais justement que le gang soit formé, qu'elles forment une sorte de principauté indépendante dans la représentation.
D'ailleurs, elles ont un peu un chef, une chef.
Oui, elles ont une coryphée qui est Elsa Gage, qui est une comédienne professionnelle, à qui j'ai proposé...
Qu'on a entendu dans l'extrait tout à l'heure.
Et à qui j'ai proposé de venir avec moi, non seulement pour jouer, mais aussi pour former le groupe des filles. Solène Arbel aussi, qui joue Antigone, était venue aussi pour les moments du recrutement, des rencontres, des ateliers préparatoires. Et c'est avec Elsa qu'on a constitué ce cœur et qu'on a inventé avec elle cette vie. Parce qu'il fallait qu'elles habitent vraiment le plateau, qu'elles aient vraiment une vie presque indépendante. Il fallait qu'elles prennent le pouvoir, littéralement.
Alors pour prendre le pouvoir et pour avoir chacune et chacun des personnages des voix différentes, il y a aussi un travail sur le son oui. qui est fait, y compris en hors-champ. Certains portent des micros, d'autres non.
Oui. Oui, alors le travail sur le son a été très élaboré. Il est souvent discret, voire subliminal, mais très très élaboré. Il a été fait avec l'IRCAM. L'IRCAM est partenaire et coproducteur du spectacle. Et j'ai eu la chance de travailler avec un ingénieur de l'IRCAM que j'adore, qui s'appelle Sylvain Cadard, et un créateur, un compositeur, qui s'appelle Olivier Pasquet, compositeur de musique, vraiment. On a construit l'univers sonore et aussi l'espace sonore de la voix, puisque certains des comédiens sont sonorisés, mais pas tous. Je ne voulais pas que ce soit tout sonorisé, et je veux que la sonorisation soit discrète. C'est jamais au premier plan. Mais ça permet à Dominique, ça permet à Stéphanie Béguin, ça permet à Solène, Arbel, de jouer sans hurler. On n'est jamais dans la déclamation. Ça permet beaucoup de nuances. Mais c'est vrai que cette sonorisation a d'abord pour fonction d'être discrète. Elle crée un espace de parole plus qu'une vraie sonorisation.
Alors, il y a quand même un mystère qu'il va falloir lever, peut-être. C'est cette histoire de cinéma. Oui. Donc dans le titre, il est bien dit, le reste vous le connaissez par le cinéma. Le titre est une traduction très fidèle du titre anglais. Et pourtant, il s'agit peu de cinéma. En tout cas, il y a un petit passage vidéo avec Jason et les Argonautes qui apparaît sur une toile, sur un drap. Alors, pourquoi le cinéma ? Alors, Daniel Jeannetot, qu'est-ce que vous en comprenez ?
Moi, je suis un peu comme vous. Je me demandais un peu ce que ça venait faire là-dedans, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, j'ai interrogé. Martine est venue travailler un peu avec nous en amont et on l'a interrogé, on l'a cuisiné. On avait plein de questions à lui poser.
Martine Krimp.
Et on a découvert avec une espèce de stupéfaction, en même temps amusée et en même temps ça nous a plu, qu'il n'avait pas toutes les réponses lui-même. Ça m'a fait penser à cette phrase de Jon Foss, le grand auteur de théâtre norvégien, « L'œuvre en sait plus que l'auteur ». Et au fond, Martin Krim n'avait pas toutes les réponses concernant sa pièce. Il en avait beaucoup, il savait très bien ce qu'il avait écrit. Mais il y a aussi des interférences, des interpolations avec son propre imaginaire. Et je pense que le titre, enfin il nous l'a confirmé, effectivement, le titre, à ce moment-là, évoque ce film « Jason et les Argonautes » qu'il avait vu quand il était gamin et qu'il avait un peu traumatisé. C'était une scène primitive, ces squelettes qui sortent de terre, et qui le hantait et qui, du coup, fait une traversée fugace dans sa pièce à ce titre-là. Cette pièce est aussi un agglomérat de sensations, d'émotions, de souvenirs. C'est pour ça que ce titre un peu énigmatique, un peu long, un peu difficile à retenir,
presque un peu trompeur.
C'est un peu trompeur.
Presque un peu trompeur.
Peut-être aussi la définition du théâtre. Qu'est-ce que le théâtre ça pourrait être tout ce qu'on ne voit pas au cinéma. Enfin, moi, je l'ai un peu compris comme ça.
Oui, c'est vrai, absolument.
Jeu aussi de mise en abîme, puisque finalement, la scène de cinéma est tout sauf une scène de cinéma. Hein, le tissu est un peu fluide, l'image passe rapidement. C'est finalement la mise en scène.
Oui,
dont il est question.
Oui, certainement. Ou alors, le contraire de la devise de Bresson qui voulait faire au cinéma tout ce qui n'est pas le théâtre. C'est deux forces, ces deux pôles qui se fascinent mutuellement et se repoussent. Je sais que Martin Krimp est très cinéphile et très intéressé par le cinéma, mais il écrit exclusivement du théâtre. Il n'a pas du tout tenté par le cinéma lui-même, par exemple. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous tous, personnellement, je suis très cinéphile, je vois beaucoup, beaucoup de cinéma. Mais ce que j'aime faire, c'est le théâtre. Mais le cinéma me nourrit. Donc ce dialogue entre les arts, évidemment, ça nous travaille tous.
On va lui donner la parole à Martin Krimp. Il était reçu par Laura Adler dans Hors Champ le 24 juin 2014 sur France Culture.
Oui et non.
La
toute dernière pièce que j'ai écrite et qui n'a pas encore été jouée en France ou même en Grande-Bretagne a été jouée à Hambourg.
This is a play called The Rest Will Be Familiar to You from Cinema. It is based on Euripides' play The Phoenician Women.
C'est inspiré des femmes phéniciennes d'Euripide.
In this play,
dans cette pièce,
I applied retrospectively
j'ai appliqué de manière rétrospective la technique que j'ai employée pour écrire l'opéra. En effet, j'ai préservé les transactions essentielles des scènes grecques et j'ai utilisé un chœur ultramoderne, diriez-vous, pour fixer le cadre. Ainsi, ce travail pour la musique a eu une incidence sur mon écriture, mais avec un certain retard dans le temps.
Daniel Jeannetot, finalement, au-delà de la question politique, toujours d'actualité, au-delà de la question familiale, finalement, c'est peut-être la grande modernité de la pièce, c'est peut-être sa structure dramaturgique.
Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Parce que, disons que ça n'est pas linéaire du tout. Ça n'est pas non plus seulement de la déconstruction. C'est une vraie construction organique, ce qui est tout à fait remarquable et peut-être particulièrement moderne.
Qu'est-ce que vous voulez dire par organique ?
C'est l'organicité de la pièce, l'organicité de sa structure. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est vraiment comme une sorte d'écosystème de microcosme vivant où des motifs circulent d'un moment à l'autre, sont présents au départ, se retrouvent plus tard, s'éclairent différemment d'un moment à l'autre. Des choses sont lancées au début de la pièce qui circulent, qui traversent d'autres scènes, qu'on retrouve à la fin, qui éclosent sous une forme différente. En fait, quand on analyse, on n'en finit pas nous-mêmes, on la travaille depuis longtemps, on n'en finit pas de la découvrir. Elle a une vraie capacité, disons, de mettre en vie des éléments, comme je le disais tout à l'heure, des éléments épars, des éléments différents, mais vraiment reliés entre eux. Donc ça fait une représentation qui est un peu un monstre qui avance, qui change de forme. C'est pas du tout placé sous une autorité unique, C'est pas un spectacle totalitaire, c'est pas du tout un texte qui propose ça. C'est au contraire uniquement des rapports, des interférences, des relations, ce qui se passe entre des êtres et des choses. C'est ça. Les objets circulent, par exemple. Le couteau de boucher à manche de frêne, on le retrouve plusieurs fois dans l'histoire, par exemple. Bon, des choses comme ça qui sont parlantes et qui proposent, qui imposent un rapport. Un rapport, et aussi un rapport au spectateur d'emblée, et un rapport au monde, et un rapport à l'Antiquité, des rapports entre des auteurs. C'est ça qui, moi, m'a passionné, qui fait d'ailleurs que c'est une des pièces que j'ai montées, que j'ai le plus souvent lu et relu, si vous voulez. C'est un texte que j'ai lu, mais je ne sais pas combien de fois, mais énormément, beaucoup plus que d'habitude.
Et parce il y a un plaisir aussi de cet humour, quand même, qu'a justement créé la langue, les dialogues de Martin Krimp.
Oui, l'humour est vraiment très important. Ça, on a eu la joie d'entendre le public rire beaucoup. À la première, c'est très agréable, on en a besoin, c'est vital. C'est du lourd, tout ça, c'est des histoires quand même assez épouvantables, il se passe des choses terribles. Et toujours, chez Krimp, il y a ce contrepoids de vitalité qui passe par l'humour, par une forme d'ironie, qui est toujours à la fois poétique et intelligente. Jamais du cynisme, mais vraiment cette ironie fondamentale qui permet de survivre.
Dominique Raymond, on parlait du hors-champ tout à l'heure, du hors-champ sonore notamment. Alors il y a tout ce qu'on ne voit pas et que l'on raconte. Et c'est l'une des particularités de votre rôle, c'est de devoir prendre en charge une grande partie de la narration, de ce que l'on ne voit pas.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un rôle de conteur aussi, de conteuse. Elle raconte tout ce qui s'est passé depuis le début. Et...
elle est un peu l'inconscient collectif aussi.
Voilà, son... qu'est-ce que disait Claire ou toi, que j'étais le corps de Jocaste servait à tous les avatars.
Oui, le corps de Jocaste est le théâtre de toutes ces histoires. Ça se passe en elle, tout ça. Elle est le champ de bataille et la matrice.
Voilà. Et le fait de devoir raconter l'histoire, en fait, soulage beaucoup du poids de l'interprétation. Je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser la question de savoir comment on joue. Quand on raconte, on raconte. Il suffit de voir ce qu'on dit. Et du coup, ça soulage énormément de tout ce poids terrible de comment on va le jouer. On se pose pas la question. Et ça, c'était une très très bonne surprise, je dois dire.
Ça permet autre chose, d'un point de vue narratif et dramaturgique, c'est aussi de poser, de camper tous ces personnages qui ont des relations assez complexes, finalement de ne pas s'y perdre en tant que spectateur. Oui, il y a quelque chose qui s'installe assez naturellement. Du découpage et de la répartition des personnages, alors même qu'ils ont tous des noms compliqués, que les liens sont entremêlés. Daniel Gento.
Oui, c'est d'ailleurs un aspect, une bonne surprise des représentations, c'est que cette pièce, bien qu'elle ne soit pas construite de façon linéaire, c'est pas juste l'énoncé du mythe, c'est une pièce qui restitue l'espace mythique mélangé, entremêlé avec le présent, et on s'y retrouve. C'est vrai que c'est construit de telle façon que on est pris par la main. Promener dans des pensées, dans des visions parfois atroces, parfois très émouvantes, mais toujours guidé par, disons, une vision très claire de l'auteur.
Alors un petit mot, une question du Sphinx. Vous ne devez pas y répondre trop pour ne pas spoiler le spectacle, mais quand même, Édipe est celui dont on parle beaucoup, que l'on voit assez peu, assez tardivement.
Boudou.
Comment?
Yann Boudou.
Yann Boudou, absolument. Donc il y a ce fantôme d'Édipe. D'Édipe caché, d'Édipe terré.
Alors, la représentation, la figuration d'Édipe dans la pièce, mais aussi chez Euripide, c'est une des grandes questions. C'est comment faire pour qu'Édipe soit en permanence au cœur du plateau, sans être visible. Il est invisible, mais toujours là. Il pèse sur toutes les consciences. Comment faire pour le placer durant toute la représentation au cœur de l'espace mental et physique de la représentation. C'était une des questions scénographiques qu'il a fallu résoudre, pour laquelle on a trouvé une solution que je ne vais peut-être pas expliquer là maintenant. Mais,
ah ben non.
Mais effectivement, oui, il est là. Il est là, mais il est aussi en nous. C'est vrai, sans parler d'ailleurs du fameux complexe d'Œdipe. La figure d'Œdipe représente une espèce de commotion primitive dans l'esprit de l'humanité, dans notre patrimoine inconscient mythique. C'est celui sur qui toutes les calamités se sont acharné, abattu, sans qu'il soit coupable. Par ailleurs, il n'y a jamais question de culpabilité. Simplement, il était désigné pour être celui qui subit toutes les avanies, les pires.
Et ça, au théâtre, ce sont des personnages magiques, parce que ce sont des personnages jalons, des personnages charnières.
Oui, et d'ailleurs presque divins. En fait, quand on est à ce point désigné par les dieux pour être celui qui en bave, ça veut dire qu'on a été choisi par les dieux. C'est une forme d'élection, d'élection négative, mais d'élection. Et à la fin d'ailleurs du mythe d'Édipe, dans la version de Sophocle, l'Édipe à Colonne, il est littéralement déifié. Il finit en étant, à ce moment-là, en devenant une figure propitiatoire qu'on cherche à attirer chez soi, parce que c'est lui qui, finalement, garantira la survie et la prospérité de la ville.
Donc pas si déchu que ça, d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'il est sauvé parce qu'il a été vraiment déchu. C'est d'être allé vraiment si bas qui lui donne, finalement, cette espèce d'état totalement purifié de celui qui a tout perdu, enfin rien. C'est une sorte de leçon de spiritualité, un peu quand même. La pièce de Crime se finit un peu là-dessus, d'ailleurs, sur des dialogues complètement idiots. Il parle d'acheter une brosse à dents, il a caché de l'argent dans sa radio, il veut une barre de chocolat. C'est pas grand-chose, mais ça raconte finalement le retour après ces grandes catastrophes du mythe. Ça raconte juste le retour à une vie tout à fait ordinaire et anonyme, c'est-à-dire enfin la fin de l'histoire mythique de la grande tragédie, enfin le retour à la vie anonyme.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui.
Merci.
Je rappelle que le spectacle Le Reste, vous le connaissez par le cinéma, se joue jusqu'au 22 juillet au gymnase du lycée Aubanel, puis sera en tournée à partir de 2020. Daniel Gentot, vous serez également à 16h30 cet après-midi, ici même, à l'Université Pasteur, l'invité d'un dialogue artiste-spectateur dans le cadre d'un atelier de la pensée du Festival d'Avignon. Entendez Karma Junction par Chaba Palotai, extrait de l'album Antiquity sorti en février dernier chez BMC. Chaba Palotai sera en concert le 20 juillet au Festival d'Étimbules à Argentan en Normandie. Il est 13h30 sur France Culture pour ceux qui nous rejoignez. C'est la deuxième partie de la Grande Table d'été avec pour invité la comédienne, metteuse en scène et réalisatrice Myriam Boyer. Louise fabrique des parapluies dans une usine, une baleine après l'autre. Parapluies solides, parapluies colorées, toiles protectrices contre une époque qui la dépasse. Dans sa cuisine, vaisselle dans une main, éponge dans l'autre, Louise s'insurge contre le monde désenchanté que son fils reflète sur ses carreaux. Elle décide de le changer. Myriam Boyer, alias Louise au parapluie, est aujourd'hui parmi nous. Elle est l'invitée du portrait de la grande table d'été. Myriam Boyer, bonjour.
Bonjour.
De retour à Avignon.
Oui, 7 ans.
7 ans.
Oui, c'est en 2012 où je jouais Riviera, le rôle de Fréhel. Et c'est un très bon souvenir.
Vous êtes venue quelques fois à Avignon, pas tant que ça.
Non, c'est la troisième fois. La première fois, c'était en 70, à l'époque de Villars. Et j'étais dans le Yin avec au Cloître des Carmes. Et puis Riviera il y a 7 ans. Et voilà, et cette année...
Et vous y auriez mis les pieds encore une fois avant, mais pas pour jouer. Hein, en 68 aussi?
Oui, enfin c'est 70.
70.
C'était tout de suite, voilà. C'était vraiment les premiers festivals off, mais moi j'étais dans le IN à ce moment-là, et notre metteur en scène était parti. Et c'est Villars qui nous avait fait répéter.
À la place du metteur en scène brésilien?
Pas brésilien, Michel Berthaud.
Non, Michel Berthaud, c'était
bien
parti. Bien
français, bien de chez nous.
On va écouter Jean Villars, puisque vous l'évoquez, c'était en 66, le 3 novembre.
La première des choses que nous devions faire, de par notre cahier des charges au sein du TNP, c'était de faire venir dans notre salle, non pas l'élite, non pas les gens fortunés, mais d'abord ceux qui, peut-être, sont éloignés des questions artistiques, esthétiques, etc. Et surtout faire en sorte que l'art ne soit pas considéré par certaines classes défavorisées comme une chose qui ne leur appartient pas, mais au contraire, une chose qui leur appartient. Sans le savoir, nous faisions du populaire. Le prix des places en 1947, il y a donc 20 ans, vraiment, était de 100 francs, anciens, bien sûr, ouais. 200 et 300. Je crois qu'à ce moment-là, le prix des places à Paris était déjà de 400, 600 et 700. Et nous avons même donné, chose avec laquelle j'étais pas entièrement d'accord, des représentations, une ou deux gratuites. Mais je suis pas très chaud sur ces choses-là. Je sais que la Comédie française fait ça le 14 juillet. Je crois qu'il vaudrait mieux que les théâtres nationaux baissent leur prix. Plutôt que de donner une représentation par an comme ça. Alors là, c'est au fond, après on a bonne conscience une fois par an. Je crois qu'il faut l'avoir tous les jours.
Vous voyez, je vous vois sourire à l'évocation du prix du billet, 4 fois moins cher au festival à l'époque.
Oui, 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 c'était... mais en même temps, j'entends populaire avec des gens qui venaient et qui n'avaient pas l'habitude de venir au théâtre. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé la pièce, donc Louise au parapluie, parce que justement, c'est du populaire, mais du qu'on ne voit pas sur les plateaux depuis longtemps. Et je trouve que maintenant, se rapprocher du public par ce qu'on on joue, par les pièces, je crois que c'est très important. Je crois qu'on s'est un petit peu, ou bien c'est de l'humour, mais on s'est un petit peu éloigné quand même, il me semble.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les sujets choisis, dans les personnages aussi imaginés, il y a des personnages qui sont devenus un peu invisibles? Dans le théâtre, en
voilà.
Tout cas.
Ah, mais je crois qu'on est le reflet de la société. Je crois qu'il y a eu des années où ça le faisait pas d'être, de raconter justement l'histoire d'une ouvrière aussi simplement. On parle de Ken Loach au cinéma, mais on a du mal au théâtre et surtout en France. Et c'est un peu dommage parce que ce matin, par exemple, la femme de chambre qui est venue m'apporter le petit déjeuner, elle a vu le spectacle et elle était là en train de me dire, vous savez, c'est ce que je vis avec mon fils, c'est formidable, j'adore, je vous aime. Et ça, je trouve, ça, c'est les plus gros remerciements que je peux avoir. Et j'en suis persuadée. Ils n'étaient pas là non plus, ni sur les plateaux, ni dans la vie. Je crois que c'est bien. Voilà.
Alors, dans cette pièce, il ne s'agit pas simplement de comédie. D'ailleurs, le ton est bien mélangé,
oui,
dans Louise au parapluie, puisqu'il y a aussi un constat fait sur l'évolution d'une société qui, oui, selon Louise, perd de son sens.
Oui. Elle est dépassée par Internet, par son fils qui est YouTuber, et elle n'existe plus. Ils sont chacun dans leur bulle. Et je dirais, c'est l'ancien et le nouveau monde. Et c'est terrible. Je dis toujours, Vous vous rendez compte qu'on est la première génération, nous. Quand on était petits, on nous apprenait à jouer aux petits chevaux, au Monopoly. Eh bien, nous, on a été obligés de demander à nos gamins de nous faire, de nous montrer comment ça marchait et de savoir un Game Boy. Moi, je savais pas ce que c'était. Il y avait plein de choses comme ça où c'est les enfants qui nous ont, qui avaient, on avait besoin des enfants. Et donc, le regard des enfants vis-à-vis de l'adulte, on n'est plus la référence quelque part. Maintenant, c'est différent parce qu'évidemment, si vous avez 40 ans, vous avez aussi vécu, vous avez un gosse qui, vous étiez vous-même dans cette, dans le numérique. Donc, c'est pas pareil. Mais nous, c'est incroyable. Ça fait une bascule. Et donc, automatiquement, il y a un regard où c'est plus compliqué.
Alors il y a cette idée générationnelle et puis il y a aussi la question des valeurs qui est discutée. C'est une question politique qui est quand même traduite dans le spectacle puisque Louise, elle veut s'engager aux élections municipales.
Pour exister dans les yeux de son fils. Et donc elle va y aller et avec toute la naïveté. Toute la naïveté de quand on n'a jamais mis les pieds là-dedans, et en même temps avec du bon sens, avec l'envie d'apporter quelque chose. C'est une pièce très optimiste. Et en plus, elle arrive à faire quelque chose à la fin, même si c'est pas en tant que mère. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment beaucoup de joie à partager. L'auteur Emmanuel Robert Espalieu, qui avait écrit d'ailleurs Riviera, me l'a écrite en pensant à moi. Et je pense que c'est peut-être cette raison qui me donne un bonheur tous les soirs, de raconter ça parce que je me sens concernée, j'adore.
Alors, d'ailleurs, vous l'avez produit, ce spectacle aussi.
Oui.
Alors, est-ce que ça a été par nécessité? Est-ce qu'il était difficile de trouver une production pour un spectacle qui parle de sujets comme ça?
Je savais que ça serait compliqué et j'avais pas envie de d'être désespérée. J'y suis allée tout de suite. J'ai pensé que c'était pour Avignon parce que je me suis dit Avignon, il n'y a pas d'intermédiaire, on est tout de suite confronté au public et c'était très très important pour moi avec cette pièce. J'avais pas envie d'entendre c'est pas une pièce ou bien si ça va pas intéresser. J'avais envie d'être encore sur l'excitation d'une écriture et envie de le livrer comme ça, du jour au lendemain, et de voir, et puis je me suis pas trompée.
Alors vous jouez avec Prune Lichelet et Guillaume Viry dans cette pièce. Malgré tout, vous avez à tenir un rôle très long, assez lourd, Myriam Boyer. Alors comment est-ce que vous avez travaillé cette pièce qui est à la fois quasiment dans un souffle?
Oui, c'est vrai. On sent bien la manière dont il l'a écrit, il faut la jouer aussi de cette façon-là. C'est vrai que c'est dans un souffle. Je l'ai travaillée comme je fais tout le temps. En fait, elle était presque plus compliquée que
les
autres.
Quand vous faites tout le temps, Myriam Boyer?
C'est vrai que j'ai une façon un peu spéciale. Il y a sûrement des moments en répétition où on se dit mais où elle va, qu'est-ce qui se passe. Je suis assez solitaire. Je dois reconnaître que je fonce avec mon personnage. J'essaye de le trouver et je trouve que plus c'est simple, c'est un peu comme les danseurs. Vous savez, il faut faire beaucoup de barres hein, pour avoir l'air de comme ça, de lever la jambe et puis que tout a l'air facile. Et je crois que quand vous avez quelque chose comme ça qui a l'air facile, il y a rien de plus compliqué. Donc il faut vraiment aller chercher très 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 loin et le travailler. Mais c'est vrai que je fais un peu ça avec tous mes personnages, que ce soit le chat ou Misery ou la vie devant soi. Il y a quand même quelque chose et ce sont souvent des femmes très fortes, enfin de caractère. Et ça me plaît.
Alors quand on fait un saut dans le temps, puisque vous évoquez ces rôles à la fois au théâtre mais aussi au cinéma, Myriam Boyer, on retrouve ce fil effectivement de l'intérêt que vous avez pu avoir pour la condition de certains personnages qu'on voit moins, ce milieu populaire, ces rôles assez ancrés, alors que ce soit des figures mythiques du Paris populaire, de Fréhel par exemple, mais aussi vous avez pu jouer aussi dans Le Chat, vous avez pu interpréter le rôle de Simone Signoret, donc il y a cette trame comme ça qui se dessine dans toute votre carrière. Est-ce que c'est par engagement personnel, esthétique, ou c'est une question politique qui vous a toujours travaillé?
Je crois qu'il y a quelque chose, vous savez d'où vous venez, quoi. Et je crois que c'est ma manière de faire ce métier, c'est-à-dire de pas l'oublier et de partager quelque chose qui me tient à cœur, de mon vécu de petite fille. et où j'ai rencontré tous ces gens quelque part. Je les ai rencontrés et j'ai toujours envie de les faire parler, de les partager avec le public. Parce que il y en a pas tant que ça, vous savez, il y en a pas tant que ça, et c'est toujours une bataille. Hein. Faut pas croire, c'est pas simple. Le chat, on a du mal pour avoir un théâtre. Tous, c'est une bataille. J'ai toujours bataillé pour vraiment les imposer.
Alors là, c'est le théâtre des Gémeaux, dont vous êtes la marraine.
Oui, aussi. oui, un nouveau lieu qui est très très joli. Hein.
Et là, vous avez pas dû batailler.
Bah si,
ça si.
Bah si, parce que la production Avignon, on va pas. Hein, je crois que tout le monde peut vous dire à quel point c'est difficile et même rempli. Vous pouvez pas rentrer dans vos sous, mais on le sait d'avance. Mais c'est comme je vous dis. Par contre, le public, c'est direct. C'est vraiment direct. Il est là ou il est pas là. Donc, et puis vous sentez si ça va ou si ça va pas. Et là, je me suis pas trompée, donc je suis ravie.
Est-ce que cette expérience que vous avez menée, peut-être on peut faire un petit retour sur, sur vos débuts. Vous dites que vous êtes issu d'un milieu populaire, que vous avez travaillé aussi à la fois comme dactylo, vous avez été repéré très jeune, notamment par Agnès Varda.
C'est pas repéré, là c'est pareil. Ma vie, elle est complètement. Je suis tombée dans le théâtre complètement par hasard. Donc j'étais facturière et quand j'ai rencontré Agnès Varda, c'était à l'ORTF et il y avait pas de casting et c'était un couloir. On appelait ça le couloir de la honte. On était payé donc à la ligne
et il a existé longtemps.
C'était très difficile. C'était très difficile parce qu'on faisait la queue donc devant tous les bureaux, tous les bureaux, et puis vous aviez un assistant qui disait ah bah oui tu j'ai un personnage, et là je suis rentrée dans un bureau et l'assistant a tout de suite téléphoné à Agnès et lui a dit tu sais alors là j'ai une petite nana là qui va te plaire, et là dans la demi-heure j'étais engagée sur une belle production d'Agnès Varda et on s'est jamais quitté. C'était dans les années 70, début 70, on ne s'est jamais quitté. Après, j'ai toujours été assez proche.
Avec un retour régulier à justement un théâtre populaire, un cinéma populaire, mais aussi des passages par beaucoup de textes classiques, alors que ce soit les classiques tels qu'on les connaît au théâtre français, Molière, etc. Mais il y a eu aussi Coltès qui a joué un rôle important dans votre carrière.
Ah oui,
que vous avez joué beaucoup.
Oui, parce que on a ouvert le théâtre de Nanterre avec Patrice Chéreau, avec Combat de Nègres et de Chiens. On savait pas du tout ce que Coltès représentait. On a découvert Coltès, en fait, en même temps, le même jour, à cette première à Nanterre. Et j'ai créé donc Combat de Nègres et de Chiens. J'ai créé aussi une deuxième pièce, Roberto Zucco. Et j'ai repris le rôle qu'avait joué Jacqueline Maillan dans Le Retour au désert. Et c'est vrai que trois Coltès, j'avais un rapport assez merveilleux avec lui, avec Coltès. Oui,
Alors Coltès, c'est complètement autre chose. C'est justement une langue assez complexe. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce langage-là? Comment est-ce que vous l'avez travaillé?
Ah ben, regardez.
Myriam Boyer.
Oui, mais c'est Coltès. Pour vous, c'est Coltès, mais ce qu'il raconte dedans, c'est tout ce que je connais, que j'aime et que j'ai toujours envie de que ce soit Solange. Tous, et c'est des personnages populaires. Et justement, ils sont beaux, et ils sont élevés avec un discours, avec c'est formidable. Et c'est tout ce que j'aime. Mais ma grande chance, hein, quand on regarde toutes les 50 ans de carrière entre guillemets, c'est que j'ai eu les meilleurs. C'était au théâtre, j'ai travaillé avec les plus grands, que ce soit Chéreau, Lavelli, Grumbert, enfin vraiment les plus grands. Et à la télé aussi, parce que à l'époque de l'ORTF, je travaillais avec des gens, ça s'appelait l'écriture par l'image, et ils faisaient des histoires. J'avais fait l'histoire de la grand-mère d'un réalisateur qui s'appelait Yves Lomet, c'était magnifique. Ça commençait en 14, ça se terminait sous De Gaulle. Je faisais donc une paysanne là-dedans. Donc ça, c'était début 80. J'ai côtoyé les plus grands au cinéma, pareil, que ce soit Corneau, Bertrand Blier. Et donc je suis faite de cette matière-là. On est des éponges, hein, nous, les interprètes. Et d'avoir eu la chance de côtoyer tous ces grands, ces génies. C'est vraiment un cadeau, oui.
Alors,
oui.
Vous parliez de la manière dont vous vous isolez pour trouver votre personnage au théâtre. Comment est-ce que vous travaillez le son, la voix, la langue? Vous avez cette voix magnifique, un peu particulière. Comment est-ce que vous travaillez justement sur les différents textes? Vous allez nous lire un peu de Coltès après. Oui. Comment est-ce que vous la travaillez, votre voix et votre diction?
J'ai jamais rien travaillé du tout. Je me suis mise à chanter Fréhel parce que j'ai écouté Fréhel. Je me suis mise à faire du théâtre et puis on m'a dit t'as une belle voix. Et, bien, c'est formidable. Mais c'était pas bien quand j'étais petite parce que j'avais cette voix-là déjà. On aurait dit que j'avais fait les bistrots et que j'avais et toute petite. Et quand l'instituteur était de dos, et si je disais oui ou non, c'était moi. Voyez, je vous entends. Voilà. Donc j'étais tout de suite repéré. Il y en avait qui pouvaient passer inaperçus, mais alors moi, tout de suite repéré. Et après, ça a été un cadeau dans la vie, oui, aussi.
Alors, vous avez proposé, oui. Quand on vous a dit qu'est-ce que vous aimeriez lire aujourd'hui à Avignon, vous nous avez dit Le retour au désert, oui. De Coltès. Alors, Le retour au désert, le monologue en particulier de Mathilde. Alors, racontez-nous ce qui se passe à ce moment-là de la pièce, hein, c'est l'histoire.
C'est un passage très particulier, parce qu'en fait, on peut le sortir de la pièce. En fait, c'est vraiment un monologue, mais je dirais presque, c'est comme si Mathilde, elle avait une réflexion qui était sa réflexion à elle. Ça fait presque pas partie de l'histoire. C'est pour ça que je trouve ça extraordinaire. Je trouve que Coltès, il s'est permis de faire un petit, les hommes et les femmes, la relation entre les hommes et les femmes, qui sont les hommes. Et j'adore ce regard. J'adore ce regard et c'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là.
On vous écoute.
La vraie tare de nos vies, ce sont les enfants. Ils se conçoivent sans demander l'avis de personne et après, ils sont là. Ils vous emmerdent toute la vie. Ils attendent tranquillement de jouir du bonheur auquel on a travaillé toute notre vie et dont ils voudraient bien que l'on n'ait pas le temps de jouir. Il faudrait supprimer l'héritage. C'est cela qui pourrit les petites villes de province. Il faudrait changer le système de reproduction tout entier. Les femmes devraient accoucher de cailloux. Un caillou ne gêne personne. On le recueille délicatement. On le pose dans un coin du jardin. On l'oublie. Les cailloux devraient accoucher des arbres. L'arbre accoucherait d'un oiseau. L'oiseau d'un étang. Des étangs sortiraient les loups. Et les louves accoucheraient et allaiteraient des bébés humains. Je n'étais pas faite pour être une femme. J'aurais été le frère de sang d'Adrien, on se taperait sur l'épaule, on ferait des virées dans les bars et des parties de bras de fer. On se raconterait des histoires salaces la nuit, et de temps en temps, on s'éclaterait les couilles à coups de poing dans la gueule. Mais je n'étais pas faite pour être un homme non plus, encore moins peut-être. Ils sont trop cons. Fatima a raison, sauf qu'elle n'a pas vraiment raison. Les hommes entre eux savent être des copains. Quand ils s'aiment bien, ils s'aiment bien. Ils ne se tirent pas dans les pattes. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont cons qu'ils ne se tirent pas dans les pattes. Ils n'y pensent pas. Il leur manque un ou deux étages par rapport à nous. Parce que les femmes, lorsqu'elles sont amies, elles se tirent gaiement dans les pattes. Elles s'aiment, et parce qu'elles s'aiment, tout le mal qu'elles peuvent vous faire, elles vous le font. C'est à cause des étages supplémentaires dans leur tête. Ne dites jamais à quelqu'un que vous avez besoin de lui ou que vous vous ennuyez de lui ou que vous l'aimez. Parce qu'alors, il pense tout de suite que c'est une raison suffisante pour se croire arrivé, pour prétendre porter le pantalon, pour s'imaginer tenir les rênes, pour prendre des airs de petit malin. Il ne faut jamais rien dire, rien du tout, sauf dans la colère, car alors on dit n'importe quoi. Mais lorsqu'on n'est pas en colère, comme maintenant, et à moins d'être une fichue bavarde, il vaut mieux se taire. Quoi qu'il en soit, Adrien repartira avec moi, cela est clair dans ma tête. Je le voulais, je l'aurai, je suis venu sans, je repartirai avec. Mais silence, plus de mensonges. Mathilde, le soir te trahit.
Merci, Myriam Boyer, d'avoir accepté de lire. Alors ce passage-là, qu'est-ce que vous aimez ? Racontez-nous ce que vous aimez.
J'aime beaucoup ce regard de Coltès sur les hommes et les femmes qui ont des étages supplémentaires, mais en fait, qui sont peut-être peut-être trop intelligente par rapport à la relation humaine. Je trouve que c'est il ose raconter des choses qui sont tellement intimes, tellement profondes et qui font partie du monde de Coltès. Et il est dur, hein, et c'est très dur. Il a un regard très dur sur nous, sur la société. Et là, je trouve que c'est très très bien résumé. C'est vrai que c'est dans le personnage de Mathilde, mais je trouve que ça peut sortir. C'est, pour moi, Coltès, c'est ça. Et j'aime beaucoup son écriture et sa musique. Je dis tout le temps, il y a une musique que j'aime beaucoup.
Avec un langage très en contraste, hein, qui monte et qui descend.
Voilà, oui, tout à fait. C'est cru et en même temps, c'est très soigné. C'est très, très agréable à dire.
Pour refaire un petit tour par le théâtre des Gémeaux et Louise au parapluie, dans cette pièce, c'était encore le fruit d'une collaboration avec Emmanuel Robert Espalieu. Ça fait déjà un moment que ça dure.
Oui, et c'est la deuxième fois. Et c'était formidable, Fréhel. C'était un très 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 beau rôle. J'avais vraiment eu beaucoup de plaisir aussi à jouer Fréhel. Et quand il m'a apporté cette pièce, j'ai pas hésité. C'est vraiment, c'est tout ce que j'aime en ce moment. Avoir au théâtre de l'actualité, c'est une pièce d'aujourd'hui, mais plus que d'aujourd'hui. C'est carrément, elle peut être dépassée, hein, dans 6 mois. On sait pas. Mais en tous les cas, elle est vraiment d'aujourd'hui. Elle est à faire entendre maintenant. Et ça, pour moi, ce qu'elle raconte me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
Alors, elle raconte quand même une révolte personnelle, mais qui est une révolte...
Moi, je crois que les Gilets jaunes ont sûrement fait quelque chose dans la tête de mon auteur. Il dit pas que c'est ça, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à ces premières femmes qu'on voyait aux actualités, hein, et qui parlaient souvent des femmes qui élevaient leurs gosses seules, qui avaient des... Ça paraissait, oui, il y a une naïveté dans la manière de s'exprimer, de croire qu'on peut faire quelque chose, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut bouger, et je trouve que ça me correspond bien. Si vous voulez, moi, pour moi, c'est ce que je suis, même en tant que comédienne. Ma façon de faire, d'aller produire, de vouloir faire ce que je veux, de raconter ce que je veux. Il y a quand même quelque chose dans le personnage où on se rejoint, quoi.
Alors, il y a quand même une grande violence sociale dans cette pièce, puisque finalement, le système est tellement huilé que même si, alors il est bien décrit quelles sont les modalités à remplir pour pouvoir être candidate aux élections municipales, même si elle les remplit, elle a très peu de chances de faire quoi que ce soit. Elle est quand même prise dans un paysage qui, même localement, même à un niveau géographique proche, même si elle représente le vécu de beaucoup d'ouvrières autour d'elle qui travaillent dans cette usine de parapluies, elle va finalement être quand même broyée dans ce système-là.
Elle dit 30 personnes, c'est formidable. Elle aurait jamais pensé de convaincre 30 personnes. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit, c'est pas parce que je passe la moitié de ma vie dans une usine et l'autre moitié dans ma cuisine que j'ai pas mon opinion sur le monde. Et je trouve que ça résume tout. Parce que on est tous à avoir une idée. On croit que on peut rien faire, mais je trouve que c'est optimiste parce que si, la preuve, c'est que à la fin, d'accord, elle sera pas mère, mais ça lui donne l'idée de monter une coopérative avec ses copines de l'usine parce que l'usine va fermer. Donc il y a quelque chose au bout de tout ça.
Initiatique.
Voilà. Et puis regardez, moi avec mon caractère, ce genre de caractère, ben j'arrive à monter les pièces que j'ai envie de monter. C'est pas mal quand même de raconter justement une histoire comme ça qui pourrait peut-être pas être montée en ce moment.
On va écouter un extrait de Louise au parapluie.
Et t'as pas besoin d'appartenir à un parti politique?
Non.
Ok. Je vais le faire.
Tu vas faire quoi?
Je me présente dès demain. Où elle est la logique dans tout ça, tu peux me dire, hein? Pas possible, il y a un truc qui cloche. On ne peut pas faire de l'argent sur l'incrédulité des uns et le désespoir des autres, sans que ça porte à conséquence à un moment donné.
Tu sais qu'il va falloir que tu m'embrasses à un moment donné, sinon...
T'embrasser? C'est-à-dire que moi, je t'embrasse?
Bah quoi, t'as pas envie?
Bah si, moi.
Ah, tu vois quelqu'un d'autre dans la pièce, là?
Ah bah tiens! Monsieur le maire, comment tu vas?
Tu sais comment les filles t'appellent ici?
Non, comment
Alors on vous entend sur la voix de Janis Joplin, c'est la bande-annonce de Louise Oparaby.
Voilà, c'est ça, oui, oui. C'est, on entend bien quand même ce qui se passe, hein. La Louise au parapluie, la Mary Poppins, c'est évidemment le maire qui se moque, on se moque d'elle parce que elle a pas normalement, elle peut pas y aller. Et c'est pas mal ce qu'elle dit, hein. C'est pas aussi idiot, hein. Sa campagne est pas mal, moi je trouve.
En tout cas, sa campagne va la changer, y compris dans sa propre famille.
Et voilà, le regard sera différent, elle va exister, et ça c'est énorme, hein.
Et pour le reste, il faut aller au Théâtre des Gémeaux pour savoir. Voilà. Merci Myriam Boyer d'être venue aujourd'hui.
À 22h30 à La Fraîche.
À 22h30 à La Fraîche, exactement. Je rappelle qu'on peut donc aller voir Louise au parapluie, écrit et mise en scène par Emmanuel Robert Espalieu avec Prune Michelet, Guillaume Viré. Et pour le Festival d'Avignon, ça fait partie du OFF et c'est au Théâtre des Gémeaux jusqu'au 28 juillet. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été, toujours en direct et en public de l'Université Pasteur d'Avignon. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Chouchen Djergaillon, Lou Lejoli et Julien Rosa. À la réalisation, Marie Placé.